Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïk FM.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous mensuel de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir chaque mois la richesse et la diversité des musiques juives d'hier mais aussi d'aujourd'hui. Et ce soir, nous allons plonger dans les musiques juives d'hier et même peut-être même d'avant-hier, je dirais, puisque notre émission sera consacrée aux chansons des communautés juives du nord de la France, en l'occurrence la Flandre, la Picardie, l'Artois, la Champagne, dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Et pour explorer ce vaste sujet, il nous fallait bien évidemment la présence de spécialistes. Ils ont répondu présents et je les en remercie infiniment. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir dans ce studio la paléographe Colette Sirat et la musicienne médiéviste et bien connue Brigitte Laine. Colette et Brigitte, bonsoir.
Bonsoir.
Avant d'entrer donc dans le vif du sujet, nous allons entendre dès à présent Deror Ikra, un poème bien connu écrit par Dounash Ben Labrat en Espagne au Xe siècle et qui est encore chanté aujourd'hui pour Shabbat. Deror Ikra, un superbe piout ou poème religieux donc de Dounaj Ben Labrat, interprété ici par l'ensemble à la Francesca dans un tout nouveau CD qui vient de paraître, CD qui s'intitule Juif et Trouvère, chansons juives du XIIIe siècle en ancien français et en hébreu dans la collection Patrimoine musicaux des Juifs de France, une publication de l'Institut européen des musiques juives. Et donc nous allons avec ce disque parler bien entendu de ces communautés, de la musique de ces communautés juives du nord de la France au XIIIe siècle, donc en présence notamment de Colette Sirat. Colette, permettez-moi de vous présenter à nos auditeurs encore, je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui ne vous connaissent pas tant vous avez écrit sur le sujet. Vous êtes titulaire d'une thèse de philosophie, vous avez participé avec votre maître Georges Vajda à l'élaboration d'un catalogue de manuscrits hébraïques. Je crois que vous voulez vous-même peut-être vous présenter et dire plus spécialement ce que vous avez fait, parce que la liste est tellement
peut-être,
longue.
Peut-être, peut-être. Non, ça n'est pas tant que la liste est longue. C'est surtout que ce que je voudrais dire, c'est que je vis avec les manuscrits hébreux depuis plus de 50 ans. Quand je faisais ma thèse de philosophie, j'ai rencontré Georges Vajda qui m'a proposé, comme travail utilitaire, de l'aider à faire le catalogue des manuscrits hébreux du Moyen-Âge. De ce moment, je suis rentrée dans le monde des manuscrits. C'est-à-dire que, vous savez, l'imprimerie n'a commencé que vers 1480, et avant tous les livres, et après d'ailleurs aussi beaucoup ont été écrits à la main, mais avant tous les livres étaient écrits à la main. Cela signifie que chacun des manuscrits est aussi personnel qu'une personne humaine. Aucun manuscrit n'est exactement comme un autre manuscrit, parce que même si le texte, évidemment dans un texte imprimé, prenons la Bible, n'est-ce pas? Bon, la Bible massorétique. Eh bien, il n'existe pas une seule Bible médiévale qui est exactement le même texte qu'une autre Bible médiévale. Or, il y a donc dans le monde du Moyen-Âge une richesse et une variété absolument incroyables. Or, cette richesse et cette variété est très peu connue parce que les manuscrits sont un monde à part. Pour entrer dans le monde des manuscrits, cela prend beaucoup de temps.
Et c'est ce temps que vous avez pris, combien d'années avez-vous travaillé sur ces manuscrits?
Vous voulez tout savoir?
Ah, oui,
56 ans.
56 ans.
Parce que je suis entrée à l'Institut de recherche et d'histoire des textes quand j'avais 22 ans. Je préparais alors l'agrégation de philosophie, à laquelle je ne me suis pas présentée d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, je suis restée dans les manuscrits, je les ai étudiés, j'ai écrit à leur sujet. Mais le grand problème avec les manuscrits, d'abord, c'est qu'ils sont extrêmement nombreux. Il y a dans les bibliothèques du monde environ 30 000 à 35 000 manuscrits hébreux. Et très peu de gens les étudient. Ils sont très exactement, ils sont oubliés. Il n'y a pas d'autre mot pour les présenter parce que il est très difficile, même pour quelqu'un qui les étudie depuis très longtemps, de faire partager tout ce que l'on trouve dans les manuscrits. Dans les manuscrits, il y a trois éléments. Il y a le texte, qui est donc toujours très particulier. Il y a ce que j'appelle le corps du manuscrit, c'est-à-dire combien de folios il a, comment il a été écrit, et des choses de ce genre. C'est ce qui concerne la paléographie. Et puis, il y a l'histoire du manuscrit. Chaque manuscrit a eu sa propre histoire. Il en est qui ont eu des histoires absolument incroyables. Par exemple, nous sommes en France, au XIIIe siècle, n'est-ce pas? Un petit livre de prière et puis six autres ont été, semble-t-il, confisqués par Philippe le Bel au moment de l'expulsion des Juifs de France, semble-t-il. Et puis, Charles V a rendu un certain nombre de juifs un certain nombre de manuscrits aux communautés juives, mais on a oublié, dans le trésor des chartes, on a oublié sept petits manuscrits qu'on a retrouvés en 1801, à la Révolution française. Cinq siècles où ces petits manuscrits sont restés personne n'a fait attention. Ils sont tellement petits. 9 cm sur 6, 10 cm sur 7.
Est-ce que vous voulez dire alors qu'en fin de compte, et on n'aura pas le temps, c'est un sujet absolument passionnant, mais cette émission est avant tout musicale, que ces manuscrits en fait ont été sauvés parce qu'on les a oubliés. Oubliés de tous et ils n'étaient pas aux mains des juifs en fait.
Ah non, ils n'étaient pas aux mains des juifs et ils n'étaient pas non plus aux mains du roi puisqu'il les avait oubliés dans un coffre.
Comme quoi, on peut être sauvé par l'oubli, alors.
On peut être sauvé par l'oubli. Mmh. Et les manuscrits français, en particulier, sont souvent très petits. Et ils ont été sauvés par l'oubli jusqu'à maintenant. Car maintenant, vous pouvez les écouter.
Alors justement, je vous propose d'écouter un second extrait de ce disque, parce que je pense qu'on va avoir des choses passionnantes encore à entendre. Donc, il s'agit d'un pioud, d'un poème pour le Nouvel An, pour Rosh Hashanah, « Roi de Poer ».
Au chauffard, mon lourd et souhait éclate. Regarde en pitié sa jante et souhait galante. De peur de lui, les gars, sa jante et sérité à tuer sont espérantes.
Nous venons d'entendre « Roi de Poer », un pioud, un poème, donc pour le Nouvel An, dans une drôle de langue, Colette Sirat, de quoi s'agit-il en fait ?
Il s'agit de français, tout simplement.
Oui, mais de vieux français, ce n'est pas le français d'aujourd'hui quand même, parce que là, il faut le traduire.
Il faut traduire, et dans ce poème que nous avons entendu maintenant, nous avons l'hébreu et le français. Dans de Rory Ikra, nous avions seulement l'hébreu. Et là, il faut dire que les chansons qui ont été retrouvées l'ont été grâce aussi au travail de tous mes prédécesseurs. Parce que il y a eu au XIXe siècle de grands savants romanistes et ce sont eux qui ont écrit, mais aussi par exemple de Rory Ikra, est signalé dans une ligne, dans un article de la Revue des études juives par Blondheim. Donc, ensuite, il fallait trouver la musique. Et de Rory Ikra se trouve dans un manuscrit du Mars Orvitri qui a été écrit en 1207 et dans la marge Une main du XIIIe siècle a inscrit sur l'air 2. Et l'air 2, tous ceux qui sont en amourés.
Oui, c'est ça qui est totalement passionnant dans cette histoire, parce que c'est une vraie odyssée que ce disque juif est trouvert, chanson juive du XIIIe siècle, c'est que c'est pour la première fois, on peut entendre et faire revivre les chansons de ces communautés, parce qu'en fait, on n'a aucune notation musicale de cette époque-là dans les communautés juives.
Non. Et ceci, c'est grâce à Brigitte Laine.
Alors, on va peut-être poser la question à Brigitte Laine, qui est à notre côté dans ce studio. Brigitte Laine, donc, vous êtes co-directrice de l'Ensemble à la Francesca. En quelques mots, l'Ensemble à la Francesca, pour le présenter, vous pourriez dire quoi ?
Alors, l'Ensemble à la Francesca existe depuis le début des années 90. On est un petit peu à géométrie variable, mais on dirige l'ensemble avec Pierre Hamon. Et on a une équipe instrumentale et puis deux chanteurs qui sont assez stables, avec qui on travaille. Et pour cet enregistrement, vous avez entendu Lior Lebovici qui chantait, Michael Grébil qui est au luth, vous n'avez pas encore entendu, et à la vielle, et puis Viva Biancaluna Bifi qui est à la vielle également. Voilà pour l'ensemble, et on se consacre exclusivement au répertoire du Moyen-Âge, qui paraît peut-être pour certains très très vague, mais c'est un répertoire extrêmement varié. On travaille donc à partir des premiers manuscrits sur la musique profane, à partir des troubadours, on va dire, à partir de la fin du XIe, XIIe siècle. Et puis, on travaille également sur les trouvères, et puis jusqu'à Guillaume de Machaut, XIVe siècle, et aussi jusqu'à la chanson du XVe siècle. Enfin voilà, c'est un Moyen-Âge très, très vaste.
Est-ce qu'il y a beaucoup de notations musicales qui datent de cette période médiévale, notamment du XIIIe siècle ?
Oui, XIIIe siècle, justement, les manuscrits commencent à être vraiment lisibles. XIe siècle, c'est vraiment très difficile. XIIe siècle, on commence à avoir des manuscrits avec des lignes, et puis une notation qui est issue de la notation pneumatique des manuscrits liturgiques, mais qui est déjà une notation carrée sur ligne. Donc la hauteur des sons est à peu près définie. Je dis à peu près parce que des fois, on peut avoir un doute avec les graphies qui ne sont pas toujours très très précises. Ce qui manque encore, c'est la notation rythmique. Et à partir du XIIIe siècle, on a, grâce aux théoriciens et qui ont écrit beaucoup de grands traités sur la musique, on commence à pouvoir noter aussi le rythme. Mais pour ces chansons, majoritairement, c'est une déclamation. Ce sont des poésies déclamées, donc il n'y a pas un rythme qui est mesuré dans le temps, mais c'est la déclamation de la poésie sur la musique.
Il faut peut-être rappeler à nos auditeurs que la notation dite pneumatique, elle dérive en fait de ce qu'on appelle la chéronomie, c'est-à-dire les signes de la main, en fait, alors, c'est-à-dire avant que la musique soit notée, parce que pendant très longtemps elle a relevé de la seule tradition orale. On retenait ces musiques par cœur, et on avait aussi la coutume parfois, notamment dans le chant liturgique juif ancien, de guider en fait les chantres avec la main, et la main suivait en fin de compte l'élévation de la voix ou la descente de la voix. Et est-ce que c'est pas ça qui est un petit peu à l'origine de cette notation? On a commencé à noter des points puis des lignes après qui ont précisé plus la distance entre ces différentes hauteurs.
Les premiers manuscrits pneumatiques apparaissent à la fin du 9e siècle, début 10e siècle, et en effet les principaux signes évoquent un geste de la main, ce qui monte ou qui descend, mais ce sont aussi des signes basés sur l'écriture, sur par exemple la virga pour un son aigu. Bon, ça correspond aussi à un accent, un petit trait pour un son grave. Bon, c'est un mélange en effet de signes qui peuvent être guidés par la main, mais aussi d'une pensée précise sur comment représenter un son sur le papier. Donc il a fallu trouver une codification pour que ça soit parlant pour les chantres.
Et cette codification a été inventée justement pour les chantres chrétiens, absolument pas pour les chantres juifs. Je le répète, les juifs ne maîtrisaient pas du tout la notation musicale. Ah. Et on va en parler plus longuement, on va écouter un nouvel extrait, Shalfu Tsarim, qui est un poème très intéressant dont on va parler après l'avoir entendu. Shalfu Tsarim.
Thank you. שלפות צרים חרבם ליבם, חפו דברים לוחן בקרבם, שדדו ערים אביון בריבם, כי רסם תפקנה. כוננו יתרים לחצות מריבם, וספו חברים אפר בורבם, ומפז יקרים דקרו בחרבם, חתצם לליבם תפלחנה. ומאמרות חלפו פיהם,
venons d'entendre un extrait de ce poème liturgique Shalfu Tsarim, extrait lui-même donc du CD juif et trouvé chansons juives du XIIIe siècle en ancien français et hébreu, interprété par l'ensemble Alla Francesca. On a entendu bien sûr Brigitte Lenn, Lior Leibovici, Vivia Blanca Luna Biffi, Michael Grébil et bien sûr Pierre Hamon, l'homme orchestre. Il joue de tous les instruments avant, je crois, Brigitte.
Voilà, donc je n'avais pas fini la présentation de l'ensemble. Donc Pierre Hamon co-dirige l'ensemble Alla Francesca avec moi-même. Et il jouait ici cette merveilleuse flûte, et vous l'avez entendu également sur la cornemuse précédemment.
Oui, pour ceux qui ont la chance de voir ce concert, parce que ce CD a été donné en concert et l'ensemble Alla Francesca donne ce concert assez régulièrement, c'est impressionnant de voir Pierre Hamon et d'ailleurs tous les musiciens, vous jouez une quantité d'instruments, je ne sais pas, chaque musicien fait au moins 2, 3, voire plus, 4, 5 instruments.
Oh oui, Pierre, je pense que c'est lui qui remporte la palme, le concours, parce qu'il a vraiment énormément de flûtes, des flûtes droites, flûtes traversières, cornemuses, c'est vraiment lui qui a le plus d'instruments.
Alors revenons à ce poème même, Shalfu Tsarim, ça veut dire quoi exactement, Colette
Alors,
Sirat?
Shalfu Tsarim, je vais vous lire le premier paragraphe en français. Les oppresseurs ont tiré leurs épées, leurs cœurs ont formulé au fond d'eux-mêmes des propos insincères. Et le poème continue en disant du mal et en promettant toutes les calamités possibles et imaginables aux chrétiens. Qui empêche les Juifs de vivre tranquillement. Et c'est très intéressant parce que nous avons ici une réaction extrêmement offensive à des conduites qui étaient d'ailleurs offensives, mais ceci étant, les Juifs, comme les chrétiens, parlaient français, ils s'habillaient de même, ils mangeaient pratiquement, ils allaient au même marché, ils chantaient les mêmes chansons. Nous avons donc des relations qui, d'une part, étaient très tendues, mais qui, d'autre part, pour les uns comme pour les autres, étaient extraordinairement fécondes. Parce que le XIIIe siècle en France a été pour les Juifs un siècle très fécond, malgré le procès du Talmud, malgré le brûlement du Talmud. Le fait est que au XIIIe, on a écrit des livres qui ont eu un succès extraordinaire. Le petit livre des préceptes des actes de Corbeil a été copié. Il nous en reste, je crois, 200 exemplaires, ce qui est énorme. Donc, nous avons ici un climat qui, d'une certaine manière, ressemble au climat moderne. C'est-à-dire qu'il y avait... Et quand on dit que les chrétiens, quand les juifs... disent que les chrétiens les attaquent, c'est vrai, mais ce n'était pas tous les chrétiens, bien entendu. Il y a eu aussi des amitiés entre les personnes. Donc, nous avons ici, en même temps, la vie et l'amitié et en même temps le sentiment d'oppression et de colère. Et les Juifs se tournent vers Dieu en lui demandant de les venger, parce que eux ne peuvent pas se venger, bien évidemment. Donc, ils demandent à Dieu de donner aux chrétiens tout ce qu'ils méritent, c'est-à-dire la mort, la douleur, la souffrance, etc., etc. Et ce poème a été découvert très récemment par un grand savant, Raphaël Loewe, qui l'a déchiffré dans les marges d'un petit manuscrit absolument superbe, qui ressemble tout à fait à la Bible de Saint-Louis, que vous pouvez voir actuellement à la conciergerie, car il est d'une part minuscule, l'écriture est minuscule, il est très bien enluminé, et quand on se demande comment il se fait qu'un livre juif soit aussi bien enluminé, bien c'est très simple, il est enluminé par des ateliers chrétiens.
Et est-ce que dans la marge de cette chanson, puisque c'était un poème chanté, figurait également la mélodie sur laquelle...
C'est ça, à la fin. À la fin, le poème a probablement été composé par Benjamin le Scribe, et à la fin du poème, il y a « À chanter sur l'air » de Vadou Vadou, qui est une chanson de Mogno de Paris, lui aussi de la fin du XIIIe siècle. Donc ils étaient très au courant de ce qui se faisait, et bien entendu... Ils entendaient les trouvères dans les rues et ils chantaient les chansons. Et les chansons des trouvères étaient généralement des chansons d'amour. Les chansons que les Juifs ont écrites étaient des poèmes de colère et de vengeance.
Très bien, on va écouter une autre de ces chansons, ou plutôt un autre air inclus dans ce disque « Juifs et trouvères » de suite. On en parlera après, je crois qu'il s'agit de l'histoire de Jacob et Joseph. Puis ma grande joie scellée, donc morceau chanté, extrait du CD, toujours juif et trouvère, chanson juive du XIIIe siècle. On en redonnera toutes les références à la fin de cette émission et comment vous procurer également le CD. Un très beau CD, totalement inédit, Il s'agit de chansons juives donc de la seconde moitié du XIIIe siècle dans le nord de la France. C'est du vieux français, c'est de la langue d'Oïl. Il s'agit là d'un travail remarquable qui a été donc initié par Colette Sirat, présente dans ce studio, mais pour la partie musicale, c'est Brigitte Laine qui a fait un travail formidable. Brigitte, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez conçu le programme de ce disque, puisque on l'a dit, en fin de compte, les Juifs n'écrivaient pas, ne notaient pas leur musique. Donc on a retrouvé en tout et pour tout que deux poésies dans lesquelles figurait vraiment dans la marge le scribe avait écrit sur quel air il fallait chanter, mais ce disque comporte 15 morceaux. Donc comment avez-vous fait ?
Alors tout est parti de Colette Sirat qui nous a contactés, donc le Centre de musique médiévale de Paris. Et Colette m'a demandé, voilà, ça fait des années que je travaille sur les manuscrits hébraïques et il y a quand même plusieurs chansons qui ont été repérées. Est-ce que cela vous intéresserait de travailler sur un programme qui permettrait de les entendre ? Et bien sûr, je suis partie à fond dans cette histoire parce que je trouvais ça passionnant. Et ce qui était vraiment difficile, c'est vrai que je dis que c'était un défi, c'est que sur les 8 chansons donc, que Colette m'a proposées, il n'y en avait que 2 pour lesquelles on avait une idée de la musique. Pour toutes les autres, on n'avait rien. Ce qui veut dire que bon, les 2 chansons avec les incipits qui étaient donnés, donc le timbre, hein, l'air d'eux, ça c'était facile, il suffisait de retrouver les manuscrits. Pour les 6 autres, bien sûr, tout était à faire. Donc ça voulait dire travailler sur la métrique et chercher, pour faire ce qu'on appelle un contrafactum, c'est-à-dire donc chercher une mélodie qui s'adapte exactement à la métrique des poèmes en question. C'est vrai que c'était un travail qui a été assez long, parce que les métriques sont toutes différentes. Bon, c'était tout à fait passionnant. Donc il y avait 8 chansons. J'ai donc cherché parmi le répertoire d'Étrouvert ce qui pouvait vraiment bien marcher à la fois, bon, la métrique, comme je disais, et à la fois aussi dans le caractère musical. Et puis pour continuer, étoffer le programme, il fallait donc chercher d'autres chansons.
Mais donc, vous êtes, excusez-moi de vous couper la parole, oui, très modeste, parce que il y a combien de chansons de Trouvert connues quand vous dites j'ai cherché, puis j'ai trouvé, mais il y en a des centaines.
Il y en a une quantité incroyable.
J'ai cherché. Alors, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que depuis quelques années, beaucoup de chansonniers sont numérisés. Donc, il fut un temps, je passais vraiment beaucoup d'heures à la bibliothèque. Et maintenant, ces heures, je peux quand même les passer chez moi grâce à la numérisation de ces manuscrits. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un accès au grand chansonnier de Trouvert qui est immédiat. Moi, ça me paraît toujours complètement magique. Hein. Je n'en reviens toujours pas. C'est un bonheur immense pour moi. C'est vrai que ça veut dire, non plus feuilleter, mais suivre les manuscrits folio par folio. Et puis chercher ce qui convient. Bon, il y a quand même certains musicologues qui ont travaillé sur la métrique des chansons et qui disent, voilà, il y a tant de chansons qui sont écrites en octosyllabes, d'autres. Mm-hmm. Là, il y avait un problème, c'est que plusieurs chansons sont écrites en alexandrin. Ah. Et ça, j'ai les trouvères, c'est assez rare. Donc, j'ai réussi à trouver des choses qui marchaient bien. C'est vrai que je suis contente des caractères musicaux de ce qu'il y a dans le disque. Et donc le reste, j'ai tout de suite pensé à 2 chansons. L'une d'entre elles, je l'avais chantée il y a très longtemps, 2 chansons qui font partie de l'histoire de Joseph, qui sont dans des manuscrits de Trouvert. Enfin, ce sont 2 manuscrits sur l'histoire de Joseph, en fait. Et dans la marge, c'est aussi une aventure assez particulière, parce que dans ces histoires de Joseph, il y a quelques chansons qui sont écrites en ajout dans la marge du manuscrit. Donc elles ne sont pas très bien écrites. J'ai eu besoin de l'aide d'une amie musicologue parce que je n'arrivais même pas à trouver le manuscrit. Il n'est pas numérisé, lui. Et donc il y avait ces 2 chansons de Jacob qui, d'emblée, ça m'a paru vraiment très intéressant de les rajouter dans le programme. Donc tout de suite, oui.
Je voudrais rebondir sur le propos de Brigitte pour dire que la musique occupe une très grande place dans la prière des Juifs de France. Nous avons un certain nombre de livres de prière où il y a, vous savez qu'il y avait des poèmes liturgiques en hébreu, et bien dans les marges, nous avons des traductions françaises en caractères hébreux évidemment. Certains d'entre eux n'ont jamais été lus, Par exemple, il y a un manuscrit de Berne où il y a 10 feuillets avec dans la marge les traductions françaises des poèmes liturgiques parce que ils n'ont pas été lus parce que personne ne s'est donné la peine de les lire, mais il y avait les rabbins français du XIIIe siècle voulaient que les femmes puissent suivre la prière. Et à cet effet, il y avait donc des traductions pour les femmes et pour les enfants, parce que bien entendu, ni les femmes ni les enfants ne connaissaient l'hébreu. Et il y avait des lexiques, des glossaires hébreu-français pour que les petits-enfants s'habituent à comprendre l'hébreu. Le français était la langue des juifs.
Ce qui est étonnant en plus, c'est que dans les manuscrits, ce qu'on n'a pas dit à nos auditeurs, c'est que ce vieux français est écrit en caractère hébraïque, bien entendu, comme beaucoup de juifs de langue.
Oui, parce que autant la langue parlée était la langue des juifs, autant la langue écrite ne l'était pas, parce qu'on peut apprendre, enfin on apprend à parler 1 ou 2 ans, on apprend à écrire à 6 ou 7 ans. Et après l'âge de 6 ou 7 ans, il est très difficile d'apprendre une écriture. De sorte que les Juifs avaient l'habitude d'écrire phonétiquement, mais en caractère latin, vous avez toutes les langues. Eh bien, en caractère hébreu, vous avez aussi toutes les langues. Quand on parle des manuscrits hébreux, on ne devrait pas parler de manuscrits hébreux, on devrait parler de manuscrits en caractères hébraïques, parce que vous avez des manuscrits en arabe, vous en avez en persan, vous en avez même en chinois, ne parlons pas du yiddish. Donc le français était en caractères hébreux, mais c'était du français. Et c'était ainsi qu'il était compris par les femmes et les enfants.
Et je crois même, vous me corrigerez, que quand Rashi a écrit lui aussi,
bien entendu,
l'étude des écrits de Rashi, donc écrits bien sûr avec les caractères hébraïques, permettent aujourd'hui de retrouver presque la prononciation de la langue d'Oïle.
C'est une source. Bien entendu, on a beaucoup travaillé sur Rashi, sur les glossaires. On n'a pas autant travaillé sur les chansons, enfin sur les complaintes, on a travaillé, mais il reste encore beaucoup de choses à trouver dans les manuscrits et on attend des chercheurs.
Alors, parmi ces chercheurs, il y a des chercheurs qui sont aussi des musiciens, des musiciennes, donc Brigitte Lenne ici présente. Vous allez continuer à nous décrire un peu le programme. On va peut-être faire juste une pause musicale parce que il y a une pièce, vous avez glissé dans votre programme des pièces instrumentales qui sont vraiment aussi les bienvenues. Donc, on va entendre une, je pense que c'est une danse, vous nous direz exactement. En fait, vous en avez fait quelque chose d'assez dansant, en tout cas, c'est instrumental. Donc, on entend cette pièce à une ajournée ou quand je vois chanter l'alouette.
Thank you.
venons d'entendre donc à une journée quand je vois chanter l'Alouette, une pièce instrumentale mais composée de plusieurs pièces. Brigitte Laine va nous expliquer tout de suite comment. Donc extrait toujours du CD Juif et Trouvert, chanson juive du XIIIe siècle du nord de la France. Alors Brigitte Laine, vous nous expliquez un peu comment vous aviez conçu ce programme. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus?
Alors oui, donc pour ce qui est des chansons juives, des chansons et donc données par Colette comme point de départ, il y a 8 chansons. Il y en a 2 qui sont complètement en hébreu. Il y en a 2 qui sont des chansons de mariage et qui sont très intéressantes parce qu'elles sont écrites en alternance, en langue d'oïl et en hébreu. Mmh. Et puis, il y en a 4, si j'ai bien fait le compte, qui sont écrites en langue d'oïl, mais en caractères hébraïques. Voilà, donc ça, c'est le matériel de chansons juives. Je vous disais donc qu'il y avait les 2 chansons de Jacob que j'avais vraiment eu envie d'ajouter, donc elles qui font partie du répertoire des chrétiens. Et puis, il y a 2 chansons de Maïeux le Juif.
Qui est Maïeux le Juif?
Alors, on ne sait rien de sa vie, mais ce que l'on sait, parce que c'est dit dans les 2 chansons qu'il nous a laissées, qui sont 2 chansons d'amour, il dit lui-même qu'il meurt d'amour pour sa dame et qu'il s'est converti au christianisme pour sa dame, pour l'amour de la dame. Donc, c'est un juif converti au christianisme.
Et alors, donc, c'est un juif trouvert. Enfin, il s'est trouvert. Converti, c'est comme ça qu'il a appris la notation en fait, musicale, alors, enfin, ou en tout cas l'art de composer, de trouver, puisque trouvert vient du terme troubard, trouvert, trouver des vers, trouver des musiques, enfin, trouver tout ça.
Oui, donc cet homme transi d'amour était également poète et musicien, puisqu'il nous a laissé ces 2 chansons mises en musique.
D'accord.
Pour ce qui est du répertoire purement instrumental, là, vous venez d'entendre deux chansons interprétées de façon instrumentale qui sont toutes deux de Monio de Paris. On disait tout à l'heure qu'il y a seulement 2 incipits, 2 timbres qui sont donnés pour 2 des chansons juives. Un seul compositeur est connu aujourd'hui, c'est Monio de Paris. Donc, je me suis dit qu'il fallait le mettre à l'honneur dans ce disque et tous les instrumentaux sont en fait des chansons que j'ai cherchées. Dans des arrangements instrumentaux pour le mettre à l'honneur, ce compositeur donc, qui était apprécié des Juifs qui en ont choisi une mélodie.
Il faut dire que le travail que vous avez fait donc, de Contrafactum est un travail qui était courant à l'époque et qui se fait même encore aujourd'hui. Vous allez à la synagogue, on chante les prières sur des airs, ça peut être des chansons israéliennes, ça peut être le dernier air
de à la marche des armées de Napoléon.
Oui, tout à fait, ou même des chansons d'Enrico Macias. Enfin, on continue à utiliser des mélodies sur lesquelles on chante d'autres textes que ceux à l'origine.
Chanter sur l'air 2, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nos vies, même encore aujourd'hui. Et de tout temps, ça s'est fait. Et beaucoup au Moyen-Âge, on voit beaucoup de chansons qui sont... Quand les mélodies étaient appréciées, ben on s'en resservait, on écrivait de nouveaux poèmes sur les mélodies.
Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait une émission de radio avec Marc-Alain Wachnin et on a présenté une chanson, alors ce qui se passait plutôt dans le sud de la France, donc en judéo-contadin, plutôt la Languedoc, et c'était pas une chanson, c'était une prière. Et là, il m'a fait remarquer, j'avais même pas fait attention que c'était exactement la même mélodie que c'est la mère Michel qui a perdu son chat. Donc vous voyez comment c'était incroyable comment les airs circulent à la fois entre le domaine profane et le domaine liturgique et entre chrétiens et juifs, sans aucun souci. On va peut-être écouter maintenant une des chansons de mariage, El Givat Alevona, magnifique chanson dont on va parler tout de suite après.
Oh,
El Givat Alevona, une chanson, un chant de mariage juif au XIIIe siècle. C'est assez étonnant, hein, Colette.
Non, ça n'est pas étonnant. Et c'est une chanson extrêmement gaillarde. Ça a été un petit peu difficile à traduire pour avoir un vocabulaire qui ne soit pas pornographique. C'est vraiment très gaillard. Mais d'autre part, il y a donc d'une part les chansons très gaies, très heureuses, comme les chansons de mariage, et puis il y a des chansons absolument tragiques qui racontent comment les Juifs furent brûlés. Par exemple, il y a eu à Troyes, on a brûlé un grand nombre de gens, et c'est à ce moment-là, c'est d'un tragique absolument effroyable, parce qu'on y est, on le ressent, et c'est en même temps très beau, et ça marque bien à quel point la musique imbibait la vie des Juifs dans toutes leurs émotions tragiques et heureuses.
Alors cette émission passe très vite, on arrive bientôt à la fin. Je voudrais juste en un mot avant qu'on écoute le dernier extrait, est-ce que vous imaginiez l'univers musical qu'on allait découvrir en faisant, quand vous avez lancé ce projet, parce que c'est un projet qui remonte à presque 2-3 ans
Beaucoup plus que 2-3 ans.
Oui, pour vous, c'est presque 56 ans, j'ai compris.
Non, ça n'est pas vrai. 4-5
ans. Oui. Est-ce que vous imaginez cet univers musical, Colette, Brigitte, c'est une vraie découverte?
Oui, c'est une découverte parce que je ne me rendais pas compte. Entendre la musique, c'est la vivre. Et ça, on ne peut le faire qu'avec ses oreilles. Or, les manuscrits parlent à mes yeux, mais ils ne parlent pas à mes oreilles. Passant par le groupe à la Francesca, les manuscrits parlent aussi non seulement à mes oreilles, mais à celles de tous ceux qui veulent écouter.
Et bien sur cette belle conclusion, nous allons entendre un dernier extrait consacré à la nuit de Pessah.
ליל שימורים, אותו אל חצה כחצות לילה בתוך מצרים כיצא. גיבור על אדום יחצנו כחצה. דוד מעריב ערב ונזמרנו בנפש חפצה. La nuit de Pessah, je la veux partir. Les Mitzrim tués et ces Juifs gardés.
Un extrait de la nuit de Pessar. On aimerait que cette nuit continue toujours. Magnifiquement interprété par l'ensemble à la Francesca, avec des musiciens qui ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes. Je rappelle leurs noms: Brigitte Laine, bien sûr, Pierre Amon, Lior Lebovici, Vivia Blanca Luna Biffi et Michael Grébil. Des musiciens retrouvés donc sur le CD Juif et trouvèrent chansons juives du nord de la France au XIIIe siècle dans la collection des patrimoines musicaux des Juifs de France. Si vous voulez vous procurer ce disque, vous pouvez le commander au téléphone au 01 45 82 20 52. Je redonne le téléphone 01 45 82 20 52 ou sur la boutique du site internet de l'Institut européen des musiques juives. Vous en connaissez désormais l'adresse www.iemj.org. Chers amis, notre émission s'achève malheureusement déjà. En votre nom, je remercie infiniment Colette Sirat et Brigitte Laine d'avoir accepté de participer à cette émission et de nous enrichir avec tout leur savoir et leur sensibilité. Vous pouvez donc réécouter cette émission en podcast ainsi que toutes les précédentes sur le site de l'Institut européen des musiques juives, mais également bien sûr sur le site de judaikfm.com dans la rubrique podcast. Au micro Hervé Roten, Avner à la technique, l'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée en musique, bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey, now I'm wild over honey child. Honey child's got me feeling funny, I'm good schlagging muddy in the noggin, oh. I'm the sugar for my sugar, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me.